Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 128, Daf Kuf Kaf Het. Bonne écoute et bon limoud.
Rabbi Meir Omer, Im Ochez Bekatan Vegadol Oleimo, si l'aliment est sectionné de manière à ce que lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau vient avec car le lien est suffisamment solide, Hareu Kamou, le petit morceau a le même statut que le grand, autrement dit, nous considérons qu'il y a ici un seul aliment. Lorsqu'une partie de cet aliment est devenue impure, l'autre l'est devenue aussi. Mais sinon, c'est-à-dire si le lien n'est pas suffisamment solide, et lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec, il tombe. Enokamaou, le petit aliment n'a pas le même statut que le grand, autrement dit, nous considérons qu'il y a ici deux aliments différents. Lorsqu'un des deux aliments est devenu impur, le deuxième ne l'est pas devenu. Nous précisons que la Mishnah parle ici de l'impureté transmise par le Tvoulium, qui est la personne, le jour où il s'est purifié par immersion dans le bain rituel, avant la tombée de la nuit. Il lui reste une impureté légère, mais il ne rend impur que de la Touma ou de la viande d'un sacrifice. En plus, lorsqu'il touche de la Touma, celle-ci devient impure, mais si cet aliment touche un autre aliment, qui est aussi de la Touma, le deuxième aliment ne devient pas impur. En tout cas, nous voyons ici dans cette Mishnah que selon l'opinion de Rabbi Meir, si le lien n'est pas suffisamment solide et lorsqu'il attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec, nous considérons ici qu'il y a deux aliments, contrairement à ce que nous avons dit précédemment pour interpréter notre Mishnah. De Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit là-dessus pour répondre à cette contradiction, Mukhlefet Hashita, Rabbi Meir a écrit dans Maseret Vulium, le contraire de son opinion habituelle. C'est-à-dire, comme l'explique le Chazonish sur Maseret Vulium Simanhe Sivkatan Yudalef, il faut corriger l'opinion de Rabbi Meir pour qu'elle corresponde à son enseignement dans notre Mishnah. Et nous lirons donc, même si l'aliment est sectionné de manière à ce que lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec car le lien n'est pas suffisamment solide, nous considérons quand même qu'il y a ici un seul aliment. Parce que finalement, lorsqu'on attrape le grand morceau, le petit vient avec, car de cette manière, le lien est suffisamment solide. Voir aussi le commentaire du Chazan Nachum sur la Mishnah de Masechet Tevulim Perek Gimel Mishnah Aleph, et le Tosfot Yom Tov sur place, et voir aussi le Lebarié. En la Gemara demande, Umay Kushia, quelle est la contradiction entre les paroles de Rabbi Meir dans Masechet Tevulim et les paroles de Rabbi Meir dans notre Mishnah? Dilma Chaneleh le Rabbi Meir, peut-être que Rabbi Meir fait la différence, ben Tvulium, entre l'impureté transmise par la personne à l'état de Tvulium, le jour où il s'est purifié dans un bain rituel avant la tombée de la nuit, les Chartoumot et les autres types d'impureté qui sont plus graves. Et il serait possible de dire que concernant l'impureté transmise par le Tvulium, il faudra que le lien entre les deux morceaux de l'aliment soit plus solide, de manière à ce que lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau vient avec, pour que l'impureté soit transmise. Mais lorsqu'il s'agit d'une impureté plus grave, donc de l'impureté générale des aliments, même si le lien entre les deux morceaux de l'aliment est moins solide, et lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec, quand même, selon Rabbi Meir, nous considérons qu'il y a ici un seul aliment. La Gemara réponse est impossible, car Tania, il est enseigné dans une braïta, Rabbi Omer, Echad Dvulium Vechad Shartumot. La halakha sera la même, soit dans le cas de l'impureté transmise par le Tvulium, qui est l'homme, le jour où il s'est purifié dans un bain rituel avant la tombée dans la nuit, et les autres types d'impureté. Dans les deux cas, si le lien n'est pas suffisamment solide, nous considérons qu'il y a deux aliments, et donc lorsqu'un des deux aliments devient impur, le deuxième ne le devient pas, ou le devient plus légèrement, et lorsque le lien est suffisamment solide, lorsqu'une des parties de l'aliment est devenue impure, la deuxième l'est devenue aussi. Puisque c'est ainsi, nous sommes obligés de dire qu'il faut corriger les paroles de Rabbi Meir dans Masechet Tvulium. La Gemara demande, Vedilma le Rabbi lo chanele, peut-être que Rabbi ne fait pas la différence entre l'impureté transmise par le Tvulium et les autres types d'impureté, ou le Rabbi Meir chanele, tandis que Rabbi Meir fait lui la différence entre l'impureté transmise par le Tvulium et les autres types d'impureté. Par conséquent, on pourrait dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les différents enseignements de Rabbi Meir, comme nous l'avons dit plus haut. La Gemara répond, Amar Rabbi Yoshia, Hachi Amar Rabbi Yochanan. C'est ainsi que Rabbi Yochanan a dit, les divrei Rabbi, selon les paroles de Rabbi, qui ne fait pas de différence entre l'impureté transmise par le Tvulium et les autres types d'impureté, Mukhlefet Hashita, Rabbi Meir a émis une opinion différente de celle qu'il a d'habitude, et il faut donc corriger les paroles de Rabbi Meir dans la Mishnah de Masechet Tevouliyot, comme nous l'avons dit précédemment. En tout cas, du fait que Rabbi Yochanan a mis en opposition la Mishnah de Masechet Tevouliyot et notre Mishnah, nous voyons que selon lui, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon est concernant un aliment qui a été partiellement sectionné, dans une situation où, lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec, car le lien n'est pas suffisamment solide. Rava Amar, Rava propose une troisième interprétation de cette discussion. Beyesh Yad le Touma, Ve'en Yad le Hersher Kamiflege. Leur sujet de discussion est à savoir, est-ce que, du même manière que le principe du manche est appliqué pour la transmission de l'impureté, en est-il de même pour considérer que l'aliment est devenu susceptible de devenir impur? C'est-à-dire, lorsque le manche a été mouillé par un des sept liquides, est-ce que l'aliment est devenu susceptible de devenir impur? Mar Savar, un des deux Tanaïm pense, donc Rabbi Shimon pense, Yesh Yad le Touma, le principe du manche s'applique pour la transmission de l'impureté, Ve'en Yad le Hersher. Cependant, le principe du manche ne s'applique pas pour qu'un aliment devienne susceptible de devenir impur. Par conséquent, même lorsque le corps de l'animal est devenu susceptible de devenir impur par le sang qui a coulé au moment de l'égorgement de l'animal, le principe du manche ne s'applique pas et le membre partiellement arraché n'est pas devenu susceptible de devenir impur. Oumar Sabar, tandis que l'autre pense, Rabbi Meir pense, Yesh Yad le Touma ou le Hersher. Le principe du manche s'applique soit pour la transmission de l'impureté, soit pour qu'un aliment devienne susceptible de devenir impur. Par conséquent, lorsque le corps de l'animal est devenu susceptible de devenir impur, lorsqu'il a été mouillé par le sang qui a coulé au moment de l'égorgement de l'animal, le membre partiellement arraché l'est devenu aussi. Rav Papa Amar, Rav Papa propose une quatrième interprétation de cette discussion. Behersher Kodem Marshava Kamiflege. Le sujet de discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon est à savoir, est-ce qu'un aliment peut devenir susceptible de devenir impur avant qu'il n'y ait eu une pensée ou une décision de l'utiliser comme aliment? C'est-à-dire, comme nous l'avons dit précédemment, ce membre partiellement arraché du vivant de l'animal est interdit à la consommation. Finalement, ce membre ne peut pas être considéré comme étant un aliment. Cependant, lorsque la personne décide de le donner à manger à un goy, ce membre est considéré dès lors comme étant un aliment. Mais dans notre cas, le corps de l'animal à travers lequel nous voulons dire que le membre en question est devenu susceptible de devenir impur a été mouillé par le sang au moment de l'égorgement, donc avant cette pensée. La question se pose, est-ce que l'aliment peut donc devenir susceptible de devenir impur avant qu'il n'y ait une décision de le transformer en aliment? Nous lisons, selon la note marginale, Détania, car il est enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Houda, car Haya Rabbi Akiva Shoné, c'est ainsi que Rabbi Akiva rédigeait son enseignement. Chelev Shruta Bekfarim, de la graisse interdite provenant d'un animal qui a été abattu rituellement, et ce, dans les villages, où il y a peu d'habitants, donc peu de personnes qui seraient intéressées à consommer cette graisse. Par conséquent, d'office, cette graisse n'est pas considérée comme étant un aliment. Et Tsarich Marshava, ils font donc une pensée, une décision de le donner en nourriture à un goy, Ve'en Tsarich Hersher, mais il n'est pas nécessaire de le mouiller pour qu'il soit susceptible de devenir impur. Shekvar Hurchar Beshrita, car cette graisse est déjà devenue susceptible de devenir impure au moment de l'égorgement de l'animal. Amar Telefanav, Rabbi Yehuda dit, j'ai dit devant lui, donc devant Rabbi Akiva, Limatanu Rabbenu, notre maître, tu nous as enseigné la chose suivante, Ulshin Shelaktan Vehedichan Libehema, un légume vraisemblablement de la chicorée qu'une personne a accueilli et a rincé pour la donner à manger à un animal. Cette chicorée destinée à être nourriture d'un animal n'est pas susceptible de devenir impur. Venimlach alehen le Adam, puis la personne a changé d'avis pour la donner en nourriture à un homme. Dès lors, cette chicorée est considérée comme étant un aliment. Or, Rabbi Akiva a dit là-dessus, Tzrichot Hersher Sheni, il faudra qu'il soit mouillé à nouveau par un des sept liquides pour être susceptible de devenir impur. Car un aliment ne peut pas devenir susceptible de devenir impur avant qu'il soit considéré comme étant un aliment. Vechazar, Rabbi Akiva liot shonek Rabbi Yehuda, et Rabbi Akiva a changé d'avis pour rédiger son enseignement selon l'opinion de Rabbi Yehuda, et de dire donc que la graisse d'un animal qui a été égorgé rituellement, et ce, dans un village, devra être mouillée par un des sept liquides après la décision d'être utilisé comme nourriture pour être susceptible de devenir impur. Mar Savar, un des deux Tanaïm pense, donc Rabbi Meir pense, que Meikara, comme Rabbi Akiva l'a dit au début. Et par conséquent, l'animal peut devenir susceptible de devenir impur, même avant la pensée et la décision qui le considérera comme étant de la nourriture. Par conséquent, ce membre est devenu susceptible de devenir impur par le sang qui a coulé au moment de l'égorgement de l'animal, bien que la décision de le donner à manger un goy a eu lieu par la suite. Umar Savarla Kechazara, tandis que l'autre Tana, Rabbi Shimon, pense comme Rabbi Akiva après qu'il a changé d'avis. Par conséquent, même si le corps de l'animal est devenu susceptible de devenir impur lorsque le sang a coulé au moment de l'égorgement de l'animal, cependant, le membre en question n'est pas devenu susceptible de devenir impur car il n'y avait pas encore eu de décision de le donner comme nourriture à un goy. Par conséquent, tant que le membre n'a pas été mouillé à nouveau, il ne sera pas susceptible de devenir impur. Rav Acha Bereh de Rabika Amar, Rav Acha, fils de Rabika, propose une cinquième interprétation de cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Selon lui, le principe du manche ne s'applique pas pour rendre un aliment susceptible de devenir impur. Par conséquent, si un liquide mouille le manche de l'aliment, l'aliment n'est pas devenu susceptible de devenir impur. Cependant, ici, il s'agit d'un cas où du sang qui a coulé au moment de l'égorgement de l'animal a coulé sur ce membre ou sur cette chair. Benit Kaneach Hadam Ben Siman Le Siman Kamiflege. Et leur discussion est dans le cas où le sang a été essuyé entre le sectionnement du premier organe vital et le deuxième. Autrement dit, le sang a été essuyé avant la fin de l'égorgement de l'animal. La question se pose, car ce n'est pas n'importe quel sang qui est considéré comme étant un liquide pour rendre un aliment susceptible de devenir impur s'il le mouille, mais uniquement s'il s'agit du sang qui coule lorsque l'animal a été décapité ou bien lorsque l'égorgement rituel a lieu. Et la question est justement de savoir, est-ce que l'égorgement rituel a lieu pendant toute la durée de l'égorgement, c'est-à-dire pendant le sectionnement des deux organes vitaux, ou uniquement à la fin de l'égorgement de l'animal. Alors Mar Savar, un des deux pense, donc Rabbi Meir pense, Yeshna Lishrita Mitrila Veatsof, l'abattage rituel a lieu depuis les débuts jusqu'à la fin de l'égorgement de l'animal. Par conséquent, Vehaidam Shritahu, le sang qui a coulé au moment du début de l'égorgement de l'animal, est considéré comme étant du sang provenant d'un abattage rituel, qui est considéré comme étant un liquide pour rendre un aliment susceptible de devenir impur. Umar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi Shimon pense, Ena le Shrita, Ela le Basof, l'abattage rituel n'a lieu qu'à la fin de l'égorgement de l'animal. Par conséquent, Vehai Dam Makahu, ce sang qui a coulé au milieu de l'égorgement de l'animal, mais qui a été essuyé par la suite, et il n'était donc pas présent lorsque l'abattage rituel de l'animal a pris effet à la fin de l'égorgement de l'animal, est considéré comme étant du sang provenant d'une plaie qui n'a pas le pouvoir de rendre un aliment susceptible de devenir impur. Voir la Gemara plus haut, Daf Lamed Vav. Par conséquent, selon l'opinion de Rabbi Shimon, il faudra que ce membre soit mouillé par la suite avec un autre liquide pour qu'il devienne susceptible de devenir impur. Rav Ashi Amar, Rav Ashi propose une sixième interprétation de cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Selon lui, si le sang provenant de l'égorgement de l'animal était considéré comme étant un liquide qui a le pouvoir de rendre un aliment susceptible de devenir impur, tout le monde serait d'accord que le membre est devenu susceptible de devenir impur. Soit parce que le principe du manche est appliqué pour qu'un aliment devienne susceptible de devenir impur, soit parce qu'ils seraient tous d'accord que lorsque un aliment a été sectionné partiellement de manière à ce que lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand ne vient pas avec, quand même nous considérons qu'il s'agit d'un seul aliment, soit même s'il s'agit d'un cas où le sang de l'égorgement de l'animal a coulé sur ce membre. Cependant, Bishrita Marcheret Velodam Kamiflege, leur sujet de discussion est à savoir, est-ce que c'est l'abattage rituel lui-même qui a le pouvoir de rendre la chair de l'animal susceptible de devenir impure et non pas le sang, ou bien est-ce que c'est le sang qui coule au moment de l'égorgement de l'animal qui fait en sorte que l'aliment, donc la chair de l'animal, est devenue susceptible de devenir impure. Rabbi Meir pense que c'est le sang qui coule au moment de l'égorgement de l'animal qui a le pouvoir de rendre la chair de l'animal susceptible de devenir impure. Par conséquent, le membre est aussi devenu susceptible de devenir impur, comme nous l'avons expliqué. Selon l'opinion de Rabbi Shimon, le sang qui coule au moment de l'égorgement de l'animal n'a pas le pouvoir de rendre l'aliment susceptible de devenir impur. Selon lui, c'est l'abattage rituel lui-même qui permet la viande de cet animal à la consommation, qui fait en sorte que la chair est devenue susceptible de devenir impure. Par conséquent, puisque l'abattage rituel n'agit pas sur ce membre, parce que comme nous l'avons dit précédemment, il est interdit à la consommation, il n'agira pas sur lui non plus pour faire en sorte qu'il devienne susceptible de devenir impur. Par conséquent, il faudra que ce membre soit mouillé par un autre liquide par la suite pour qu'il devienne susceptible de devenir impur. Ba'er Rabba, Rabba a posé la question suivante. Rappelons-le, Rabba a expliqué la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que le corps de l'animal peut être considéré comme étant le manche du membre partiellement arraché pour que celui-ci devienne susceptible de devenir impur lorsque le corps de l'animal l'est devenu. Donc, selon l'opinion de Rabbi Meir, le corps de l'animal peut servir de manche pour le membre partiellement arraché de cet animal. Alors la question se pose, Behema Bechaya, cet animal de son vivant dont un des membres est partiellement arraché, Mahou Sheteasé Yad Lever, est-ce que le corps de cet animal, donc toujours étant vivant, peut servir de manche pour ce membre? C'est-à-dire, un animal de son vivant n'est pas susceptible de devenir impur. Cependant, la question se pose, si ce membre est devenu susceptible de devenir impur parce qu'il a été mouillé, est-ce que lorsque l'impureté touche l'animal de son vivant, le membre deviendra-t-il impur ou non? L'agma répond, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, et Léon Avi répondra. Amar Abaye, Hare Amrou, voici que le Chachamim ont dit dans Masechet Uktin, Perek Bet, Mishnatet, Kishut, Shenat'a, Be'atzitz, une courge qu'une personne a plantée dans un pot non troué. Cette plante n'est pas considérée comme étant attachée à la terre, ce qui s'y trouve est donc toujours susceptible de devenir impur. Vehigdila, puis cette plante a poussé, Ve'atzat, Chutzle'atzitz, de manière à ce que les branches sortent du pot. Dès lors, nous considérons que cette plante tire sa subsistance directement de la terre, au même titre que le pot troué. Par conséquent, Tehora, cette plante devient pure et n'est plus susceptible de devenir impure. Amar Rabbi Shimon, Vechi Mativa Letaher, comment se fait-il que lorsque les branches de cette plante ont dépassé le pot, deviennent-ils purs? Et là, plutôt, Hatame Betumato, ce qui était impur auparavant reste impur. Betahor, mais ce qui est pur, donc les branches qui dépassent du pot, Betaharato, restent pures. Abaye a posé la question suivante selon l'opinion de Rabbi Shimon. Il est vrai que les branches qui sortent du pot sont pures et ne sont pas susceptibles de devenir impures, mais la question se pose, Mahou Sheteaseyad Lechaberta, est-ce que cette partie qui sort du pot peut servir de manche pour la partie qui est restée dans le pot pour lui transmettre l'impureté ou non? L'agma répond, écoute, c'est une question qui reste sans réponse, et Léon Avi répondra. Amar Rabbi Irmia, Hare Amrou, voici que le Chachamim ont dit, Hamishtachave Lechatsi Delaat Asra, celui qui s'est prosterné envers la moitié d'une courge pour l'adorer, il l'a interdite. Il s'agit d'un cas d'une courge entière, mais cette personne a l'intention d'adorer uniquement une moitié de cette courge. Cette moitié est interdite à la consommation en tant qu'idole. Selon l'opinion de Rabbi Shimon, puisqu'il s'agit d'un aliment interdit à la consommation, celui-ci n'est pas susceptible de recevoir ou de transmettre l'impureté des aliments. Il est vrai que cette demi-courge qui est interdite en tant qu'idole transmet une impureté, comme il est enseigné dans Masechet Shabbat Daf Pegi Ben Amud Bet. Il s'agit cependant d'une impureté décrétée par les Chachamim. Alors, la question va se poser ici concernant l'impureté transmise Minatora. Alors, Baï Rabbi Irmia a posé la question suivante.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Kouf Rafret Amoud Bet. Mahou Sheteaseh Yad Lechaberta, est-ce que cette demi-courge qui est interdite en tant qu'idole peut être considérée comme étant le manche de la deuxième partie qui est permise à la consommation? Et par conséquent, lorsqu'une impureté touche la moitié interdite, l'autre moitié deviendra impure. Autre possibilité de comprendre cette question, est-ce que la partie permise peut être considérée comme étant le manche de la partie interdite en tant qu'idole? Et lorsqu'une personne ou un objet touche la partie permise, elle transmet l'impureté qui se trouve dans la partie interdite en tant que manche. L'agma répond, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, et Yahon Avi répondra. Amar Rav Papa, Hare Amrou, voici que le Chachamim ont dit, Yichur Shel Te'ena Shenifshach, une branche de figuier qui s'est arraché de l'arbre, ou Meura Biklipata, mais cette branche est encore partiellement attachée par son écorce. Rabbi Houda Metaher, Rabbi Houda purifie cette branche. Selon lui, cette branche est toujours considérée comme étant attachée. Vachachami Momrim, Im Yachol Lichyot, si cette branche peut vivre encore, car elle est suffisamment attachée à l'arbre, Tahor, cette branche sera considérée comme étant pure, autrement dit, elle est considérée comme étant fixée à la terre. Ve'im Lav, mais sinon, si cette branche ne peut plus vivre, parce que le lien n'est plus suffisant pour transmettre la sève, Tamé, cette branche est pure, autrement dit, ce qui s'y trouve est susceptible de devenir impur, comme la branche détachée. Baera Papa, la tueur à papa a posé la question suivante. Mahu sheye ase yad lechavero. Dans le cas où une branche du figuier a été partiellement arrachée de manière à ce qu'elle peut encore vivre, donc le lien est encore suffisant pour faire passer la sève, puis une autre branche s'est arrachée de cette première branche qui s'est arrachée, de manière à ce que la dernière n'est plus suffisamment liée pour vivre, elle ne reçoit plus de sève. La question se pose, est-ce que la première branche qui peut encore vivre, et donc qui est considérée comme étant attachée, peut servir de manche pour la deuxième branche qui est arrachée, mais qui est encore liée par l'écorce? Ou bien, autre possibilité, est-ce que l'arbre peut servir de manche pour cette branche qui est partiellement arrachée, de manière à ce que la sève ne passe plus, elle est uniquement liée par l'écorce? Par conséquent, est-ce que les fruits, s'ils ont été mouillés et sont devenus susceptibles de devenir impurs, deviendront impurs lorsqu'une impureté touche la première branche ou l'arbre? L'agma répond, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu Navi répondra. Amar Rabbi Zera, Hare Amru, voici que les Chachamim ont dit dans une Mishnah, dans Maseret Negaim, Perek Yud Gimel, Mishnah Bet, concernant la lèpre des maisons. C'est lorsque se développe une tache verte ou rouge dans un des murs de la maison, lorsque le Kohen voit cette tache, il voit qu'il s'agit de la lèpre, il la met en quarantaine pendant une période de 7 jours. Si au bout de 7 jours, cette tache s'est étendue, le Kohen fait enlever la pierre dans laquelle cette tache s'est développée, et il en fait replacer une nouvelle, puis il remet la maison en quarantaine pour une période de 7 jours. Si la lèpre se déclare à nouveau, la maison devra être détruite. Alors la Mishnah parle d'un cas de deux maisons adjacentes, et la lèpre s'est déclarée dans le mur mitoyen. Even Shebezavit, lorsque la lèpre s'est déclarée dans la pierre qui fait le coin de ce mur mitoyen, en général cette pierre est plus épaisse pour couvrir toute l'épaisseur du mur. Que Shehu Cholet, lorsque le Kohen fait enlever la pierre dans laquelle s'est développée la tache, donc après une période de quarantaine, lorsque la lèpre s'est étendue, Cholet et Kula, il devra enlever toute la pierre, même la partie qui donne dans la maison du voisin. Ou que Shehu Notet, mais lorsqu'il détruit la maison, lorsque la tache est revenue après avoir changé la pierre dans laquelle la lèpre s'était développée, Notet et Chelo, il détruit uniquement la partie qui lui appartient, donc la moitié de cette pierre, ou Maniach et Chelchavero, mais il laisse la partie qui revient à son voisin. Donc, dans le cas d'une pierre épaisse qui couvre toute l'épaisseur du mur, il devra casser la pierre en deux. Or, comme il est enseigné dans Maseret Negaim, la pierre de la maison atteinte de lèpre transmet l'impureté dans la maison dans laquelle elle se trouve. Alors, Baï Rabbi Zera a posé la question suivante. Puisque cette pierre est destinée à être cassée, comme nous l'avons expliqué, Mahush était asseyad lechaverta. Est-ce que la partie pure peut être considérée comme étant le manche de l'autre partie impure pour transmettre l'impureté à la maison du voisin tant qu'elle s'y trouve? L'agma répond, Teku, c'est une question qui reste sans réponse. Eliyahu Hanavi répondra. L'agmara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Meta habema, si l'animal dont de la chair ou un membre était partiellement arraché est mort, cette chair ou ce membre ne seront pas concernés par l'impureté du cadavre animal. Par conséquent, la chair restera pure, il faudra même qu'elle soit mouillée par un des sept liquides pour qu'elle soit susceptible de devenir impure. Le membre partiellement arraché transmettra l'impureté du membre arraché du vivant de l'animal. L'agmar demande, Mai ika ben ever minachai le ever shel hanevela. Quelle différence y a-t-il entre le membre arraché du vivant de l'animal et le membre du cadavre animal, puisque tous les deux sont impurs? L'agmar répond, Ika ben ayu, la différence entre les deux est la chose suivante. Basar haporesh, nous lisons selon la Shita Mukubetset, mais ever behema. C'est concernant un morceau de chair qui a été enlevé ou coupé du membre d'un animal. Te ilu basar haporesh me ever minachai. Car s'il s'agit de chair qui qui a été enlevé d'un membre arraché du vivant de l'animal, l'homme est tamé. Ce morceau de chair n'a pas d'impureté, de la même manière que la chair arrachée du vivant de l'animal n'a pas d'impureté. Mais lorsque cette chair est arrachée d'un membre d'un cadavre animal, metame, cette chair est impure au même titre que la chair qui provient d'un cadavre animal. La Gemara demande, Ever minachai de metame, lorsque nous disons que le membre arraché du vivant de l'animal a une impureté, mais ekra, de quel pasouk le savons-nous? La Gemara répond, Amar Rav Yehuda Amar Rav, nous l'apprenons du pasouk dans Vaikra Yudalev concernant le cadavre animal. Le pasouk dit, Vechi amut min habema, lorsqu'un animal mourra. En fait, à cause du terme min, nous pouvons traduire le pasouk de la manière suivante. Lorsqu'une partie de l'animal mourra. Donc, lorsqu'une partie de l'animal, un membre, est mort, c'est-à-dire a été arraché du vivant de l'animal, celui-ci a la même impureté que le cadavre animal. La Gemara demande, Behaimi Baile, pourtant nous avons besoin de ce pasouk, l'Echde Idach de Rav Yehuda Amar Rav, pour l'autre enseignement de Rav Yehuda Amar Rav, d'Amar Rav Yehuda Amar Rav, d'Amrela. Et il y en a qui disent, Bematni Tatana, que cet enseignement a été enseigné dans une braïta. Lorsque le pasouk dit, Vechiamut min habema, lorsqu'un animal mourra, le terme de min est une restriction pour nous enseigner, Miktsat behema metama, une partie des animaux transmettent l'impureté du cadavre animal, au Miktsat behema ena metama, tandis qu'une partie des animaux ne transmettent pas l'impureté du cadavre animal. Ve'ezuzu, et quel est l'animal qui a été exclu par ce pasouk et qui ne transmet pas l'impureté du cadavre animal? Zu trefa shecharta, il s'agit d'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, qui a été abattu rituellement. Bien que la chair de cet animal soit interdite à la consommation, la chair de cet animal ne transmet pas l'impureté du cadavre animal. Puisque c'est ainsi, comment pouvons-nous déduire de ce même pasouk l'impureté du membre arraché du vivant de l'animal? L'agma répond, Imken, si ce pasouk ne voulait nous enseigner qu'une seule chose, l'Ichtov Rachamana mi behema, le pasouk aurait pu se contenter de s'exprimer en disant mi behema de l'animal. Cette lettre mi nous aurait aussi montré qu'il y a ici une restriction. Mai min habehema, que veut dire le pasouk lorsqu'il a écrit min habehema? Donc il y a encore une lettre supplémentaire. Shma mina tarte, nous pouvons déduire de là deux choses. Premièrement, que certains animaux ne transmettent pas l'impureté du cadavre animal, donc un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, qui a été abattu rituellement, ne transmet pas l'impureté du cadavre animal. Et en plus, nous apprenons que lorsqu'un membre a été arraché du vivant de l'animal, celui-ci transmet aussi l'impureté du cadavre animal. La Gemara demande, Achi, si c'est ainsi, si nous l'apprenons de ce pasouk, Afilu Basar Nami, même la chair arrachée du vivant de l'animal devrait aussi transmettre l'impureté du cadavre animal. La Gemara répond, Losal Kadatar, tu ne peux pas penser une chose pareille. Détania, car il est enseigné dans une braïta, Yachol Yehe Basar Haporesh Minacha Itame, on aurait pu penser que de la chair arrachée du vivant d'un animal soit impure au même titre que le membre arraché de son vivant. Tangouloman, c'est pour cela que le pasouk dit, toujours dans Vaikra Yudalev, Vechiamut min habema, lorsqu'une partie de l'animal mourra, comme nous l'avons interprété précédemment. Alors, puisque nous apprenons l'impureté du membre arraché du vivant de l'animal du terme mita, la mort, on comparera le membre arraché du vivant de l'animal à l'animal qui est mort. Ma mita she'ena osa chalipin, de la même manière que l'animal mort est irremplaçable. Af kol, ainsi toute chose chez Eno Sechalipin, qui est irremplaçable et qui a été arraché du vivant de l'animal, aura aussi l'impureté du cadavre animal. Donc le membre arraché du vivant de l'animal est irremplaçable, il ne repoussera pas, il aura donc l'impureté du cadavre animal. Tandis que la chair arrachée du vivant de l'animal se reconstitue, elle n'aura pas l'impureté du cadavre animal. D'ivrei Rabbi Yossi, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Rabbi Akiva Omer, Behema, nous comparons ce qui est arraché du vivant de l'animal à l'animal mort. Donc nous le comparons au terme behema, l'animal. Ma behema, de la même manière que lorsque le pasouk parle d'un animal, gidim batsamot, il y a aussi des nerfs et des os. Afkol gidim batsamot, ainsi tout ce qui sera inclus par ce pasouk devra avoir des nerfs et des os pour avoir l'impureté du cadavre animal. La chair arrachée du vivant de l'animal n'a pas de nerfs ni des os. C'est pour cela que cette chair n'aura pas l'impureté du cadavre animal. Rabbi Omer, behema. Nous comparons ce qui est arraché du vivant de l'animal à l'animal, comme nous l'avons expliqué. Ma behema basar gidim batsamot, de la même manière que l'animal dont parle le pasouk est composé de chair, de nerfs et d'os. Afkol, ainsi tout ce qui sera inclus par le pasouk, basar gidim batsamot, devra être composé de chair, de nerfs et d'os. La chair, arraché du vivant de l'animal, ne remplit pas ses conditions et ne transmet pas l'impureté du cadavre animal. La Gemara demande Mai Ika ben Rebi le Rabbi Akiva, quelle différence y a-t-il entre l'enseignement de Rebi et celui de Rabbi Akiva? En effet, selon Rabbi Akiva, nous parlons d'une partie qui a des nerfs et des os. Selon Rebi, nous parlons d'une partie qui a de la chair, des nerfs et des os. Quelle différence y a-t-il entre les deux? La Gemara répond Ika ben Ayu, la différence entre les deux, c'est Arkuva, l'articulation inférieure de la patte de l'animal. Celle-ci est composée uniquement de nerfs et d'os et n'a pas de chair. Donc, selon Rabbi Akiva, si l'articulation inférieure de l'animal a été arrachée de son vivant, elle aura l'impureté du cadavre animal. Tandis que selon Rebi, puisque ce membre n'a pas de chair, il n'aura pas l'impureté du cadavre animal. Alors, la Gemara demande Ben Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, Mai Ika Benayu. Quelle différence y a-t-il entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili? En effet, selon Rabbi Akiva, il s'agit d'un membre qui a des nerfs et des os. Selon Rabbi Yossi, il s'agit d'un membre irremplaçable. La Gemara répond Amar Rav Papa, Kulia Veniv Sepataim Ika Benayu. La différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili est dans le cas d'un rein ou des lèvres qui ont été arrachées du vivant de l'animal. En effet, ces membres sont irremplaçables. S'ils sont arrachés, ils ne repoussent plus. Cependant, il s'agit uniquement de chair. Il n'y a pas de nerfs ni d'os. Donc, selon Rabbi Akiva, ces membres arrachés du vivant de l'animal n'auront pas l'impureté du cadavre animal. Tandis que, selon Rabbi Yossi Aglili, s'ils sont arrachés du vivant de l'animal, ils auront l'impureté du cadavre animal. Tanya nami gabesh ratzim ki aigavna. Il est enseigné une braïta identique concernant les reptiles morts. La braïta dit, Yachol yehe basar aporesh minash ratzim yetame. On aurait pu penser que la chair arrachée du vivant d'un reptile aurait l'impureté du reptile mort. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, toujours dans Vaikra Yudalev concernant les reptiles morts, Bemotam, lorsqu'ils meurent. Nous apprenons de là que la partie arrachée du vivant du reptile a aussi l'impureté du reptile mort. Cependant, puisque nous le comparons au reptile mort, nous dirons Ma mita she'ena oser halipin, de la même manière que la mort. Donc le reptile mort est irremplaçable. Afkol she'ena oser halipin, ainsi, tout ce qui sera inclus par ce pasouk devra être quelque chose d'irremplaçable. Divrei Rabbi Yossi Aglili, ce sont les paroles de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva Omer, Sheretz, nous comparons le membre arraché du vivant du reptile au reptile lui-même. Nous dirons donc Ma sheretz, de la même manière que le reptile dont parle le pasouk Gidi Be'atzamot est composé de nerfs et d'eau. Afkol, ainsi tout ce qui sera inclus par le pasouk, Gidi Me'atzamot, devra être composé de nerfs et d'eau. La chair n'a pas de nerfs ni d'eau, elle n'aura pas l'impureté du reptile mort si elle est arrachée de son vivant. Rabbi Omer, Sheretz, nous comparons le membre arraché du vivant du reptile au reptile lui-même. Nous dirons donc, Ma Sheretz, de la même manière que le reptile dont parle le pasouk Basar Gidi Be'atzamot, est composé de chair, de nerfs et d'eau. Afkol, ainsi tout ce qui sera inclus par le pasouk, devra être composé de basar, gidim, batsamot, de chair, de nerfs et d'eau. La Gemara explique, ben Rebbi et Rabbi Akiva, entre l'opinion de Rebbi et celle de Rabbi Akiva, ika benayu arkuva, la différence est concernant l'articulation inférieure de la patte du reptile. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'articulation inférieure de la patte du reptile n'a pas de chair. Selon Rebbi, si cette articulation est arrachée du vivant du reptile, elle n'aura pas l'impureté du reptile mort, tandis que selon Rabbi Akiva, cette articulation composée de nerfs et d'eau aura l'impureté du reptile mort. Ben Rabbi Akiva, le Rabbi Yossi Aglili, entre l'opinion de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Yossi Aglili, Mai Ika Benayu, quelle différence y a-t-il? L'Agma répond, Amar Rav Papa, Kulia Venib Sefataim Ika Benayu. La différence entre ces deux opinions est dans le cas d'un rein ou des lèvres arrachées du vivant du reptile. En effet, il s'agit de membres n'ayant pas de nerfs et d'os, mais ces membres sont irremplaçables lorsqu'ils sont arrachés. Selon Rabbi Akiva, si le rein ou les lèvres ont été arrachés du vivant du reptile, ils n'auront pas l'impureté du reptile mort, car ils n'ont pas de nerfs ni d'os, tandis que selon Rabbi Yossi Aglili, puisque ces membres sont irremplaçables, ils auront l'impureté du reptile mort. Utsricha, et la Torah a eu besoin de nous enseigner à deux reprises, à la fois concernant l'animal et concernant les reptiles, que la chair arrachée de leur vivant n'a pas d'impureté. Di hashmeinan behema, car si le pasouk ne nous l'avait enseigné que concernant l'animal, on aurait dit Hainu tama de l'homme etame mechaim, voici la raison pour laquelle la chair arrachée du vivant de l'animal n'a pas d'impureté, mishum de l'homme etame bechadasha, car l'impureté du cadavre animal n'est pas transmise lorsqu'il s'agit d'un morceau de la taille d'une lentille. En effet, pour que l'impureté du cadavre animal soit transmise, il faut qu'il s'agisse d'un morceau de la taille d'une olive. Aval sheretz. Mais lorsqu'il s'agit d'un reptile, des metame bechadasha, dont l'impureté est transmise même lorsqu'il s'agit d'un morceau de la taille d'une lentille, et mal tamé mechaim, on pourrait penser que la chair arrachée de son vivant, donc du vivant du reptile, est l'impureté du reptile mort. C'est pour cela que le pasouk a eu besoin de nous le préciser, que la chair arrachée du vivant du reptile n'a pas d'impureté. Vei hashmuinan sheretz. Et si la Torah ne nous l'avait enseigné que concernant le reptile, que la chair arrachée de son vivant n'a pas d'impureté, on aurait dit, la raison pour laquelle la chair arrachée du vivant du reptile n'a pas d'impureté, c'est parce que Mishum de l'homme est amé bemassa, car le reptile ne transmet pas d'impureté lorsqu'il est porté. En effet, le seul mode de transmission de l'impureté du reptile mort est par le toucher. C'est pour cela que l'homme est amé mechaim, la chair arrachée de son vivant n'a pas d'impureté. Aval behema de metame bemassa, mais le cadavre animal qui transmet l'impureté même par le mode de transmission de l'impureté, par le transport. Emma, on pourrait penser, tetame mechaim, que la chair arrachée du vivant de l'animal transmette l'impureté du cadavre animal. Tzricha, c'est pour cela que le pasouk a eu besoin de nous préciser aussi concernant l'animal, que la chair arrachée de son vivant n'a pas d'impureté. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Roulin, Dav Koufrafret. Nous commençons le shiur de Maseret Roulin Dav Kuf Chavtet. Nous commençons Dav Kuf Chavret Amud Bet à la quatrième ligne du bas de la page. La Gemara dit Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Selon Rashi, nous lisons Hachoter Basar Me'ever Minachai, celui qui coupe un morceau de chair d'un membre arraché du vivant d'un animal. Il s'agit d'un cas où il a coupé un morceau de la taille d'un œuf, qui sera ainsi susceptible de recevoir ou de transmettre l'impureté des aliments. Chatro. S'il l'a coupé, puis après, il a eu une pensée, donc il a décidé de le donner à manger à un goy. Tahor, ce morceau de chair est pur, il n'a pas reçu encore d'impureté. Mais s'il a pensé, donc il a décidé de le donner à manger à un goy, puis seulement après, il l'a coupé du membre en question. Tamé, cette chair est devenue impure par son contact avec le membre arraché du vivant de l'animal. Alors la Gemara dit là-dessus, Rabbi Assi lo'al lebe midrasha. Une fois Rabbi Assi n'est pas venu au Beta Midrash, Ashkeche le Rabbi Zera, par la suite il a rencontré Rabbi Zera à Marle. Il lui a posé la question suivante, Mai Amour Beve Midrasha, qu'est-ce que les Chachamim ont dit aujourd'hui au Beta Midrash? À Marle, Rabbi Zera lui a répondu, Mai Kachalar, quelle question as-tu? À Marle, Rabbi Assi lui a répondu, Dekatane, car il est enseigné dans la Braïta que nous venons de mentionner, Chishev Bachaka Chatro, s'il a décidé de le donner à manger à un goy, puis seulement après il a coupé ce morceau de viande, tamé, ce morceau de chair est devenu impur par son contact avec le membre arraché du vivant de l'animal.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.